Jabourdouille a une activité de critique littéraire, de spécialiste, de professeur de littérature française à l'université libanaise de Tripoli, près d'où il réside actuellement. Jabourdouille étant originaire, comme je le disais tout à l'heure, de cette petite ville qui est Sgarta, avec lequel donc le département de l'Aude, comme je le disais, noue des relations étroites. Quelques mots peut-être sur Sgarta pour camper le paysage.
Pour commencer, comme le monde est petit, je viens de rencontrer la représentante du département de l'Aude qui en sait bien de choses sur ma ville natale. J'étais très content de l'entendre parler à si longue distance de nos familles, de cette ville double que nous avons, qui est un phénomène un peu rare, peut-être dans le monde. C'est une ville double dans laquelle nous habitons. Nous faisons une sorte de transhumance sans troupeau, c'est-à-dire nous passons l'été en altitude, à 1500 mètres, et l'hiver dans la plaine, à 200 mètres d'altitude. C'est la même ville, je veux dire, c'est le même registre d'état civil. On est de la même ville, mais on habite dans deux lieux différents. Vous arrivez à comprendre. Mais voilà, la même municipalité avec laquelle le département de l'Aude est en train de travailler, la même municipalité pour les deux villes, la même gendarmerie. Mais ça se vit en été, en hiver, à cause de la neige. Et aussi en été, le village de la plaine se vide presque.
Il y a une continuité urbaine ou pas? Ou
c'est c'est à 40 km de distance.
40 km de distance.
On monte. Mais ça fait des dépenses en plus. Dans le temps, nos ancêtres, nos grands-parents amenaient même certaines parties de mobilier, montaient et descendaient. Mais maintenant, tout le monde a son frigo, deux fois, son salon, tout. Voilà. C'est peut-être enrichissant, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose. Et puis, c'est une ville réputée aussi pour être une sorte de conservatoire de certaines solidarités familiales chrétiennes du Liban, qui sont aussi, en fait, proprement orientales et arabes, de ce qu'on appelle la famille. La famille au sens élargi, comme notre famille, les Douaihi, c'est des milliers de personnes qui sont soudés par une forme de conscience commune de leur intérêt ou de leur chefferie ou des choses comme ça, qui se manifestent dans les élections avec force et qui se sont manifestés, on ne l'espère plus, dans des règlements de compte, dont je raconte des chapitres.
Dans les livres.
Dans Pluie de juin. Voilà. Oui. Mais quand même, c'est de bonnes gens aussi. En même temps.
Mais alors, les noms apparemment trahissent l'origine de la ville des personnes. Douaihi, on sait que c'est plutôt de Sgarta ou de cette région-là.
Oui, c'est-à-dire que les familles Frangier, Douaihi, surtout Mawad, c'est des familles de Sgarta. Tout le monde, on est reconnaissable. Donc, dès qu'on dit notre nom de famille, dès que je dis mon nom de famille, on sait que je suis chrétien maronite de Sgarta. Tous les Libanais le savent. C'est pas facile. Tandis qu'Imane Hmaïdan, on ne sait pas d'où elle est. Heureusement pour vous.
Alors comment un Douaihi chrétien maronite de Sgarta sait prendre la littérature française de telle sorte qu'il devient professeur de littérature française à l'université de Tripoli?
Ça aussi, c'est le Liban. Le Liban dans le sens où depuis le milieu du 19e siècle, des missions françaises ou belges ou francophones de religieux se sont installées au Liban, religieux et religieuses, se sont installées au Liban pour apprendre, pour faire l'école, surtout en milieu chrétien. Moi, je vais m'attarder sur un détail. Ma mère a a été à l'école chez ce qu'on appelle les Sœurs de Charité, fondées par M. Vincent, qui ont un établissement à Zgharta même. Cet établissement a été, s'est agrandi et s'est bien développé au début du XXe siècle. Une religieuse française qui a hérité de ses parents a demandé à ce qu'on convertisse, à vendre cet héritage, convertir en argent pour justement développer cette école et en faire ce qu'elle a été presque jusqu'à maintenant. Donc, nous avons autour de nous plein d'écoles françaises ou francophones. Entre autres, à Tripoli, les frères des écoles chrétiennes, fondées par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Un peu sévère, mais quand même, ils ont bien élevé aux Français, avec le signal à l'appui, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le signal à la récréation, c'est-à-dire si on parle l'arabe, dans notre propre pays, on se donne réciproquement le signal, et on est puni. C'est pour, voilà, et comme ça, on va apprendre le français, n'est-ce pas? Et depuis...
C'est un peu évoqué dans ce livre-là.
Peut-être, oui. Oui.
Saint-Georges, regarde ailleurs. Oui.
Et puis, je fais mes études à Beyrouth, et puis un doctorat de troisième cycle à Paris 3. Et voilà, j'enseigne le français depuis toujours. Voilà, il y a comme ça des élèves qui ont penchant pour les lettres. Je me rappelle que j'étais en classe de seconde, de première. Je lisais Alcool d'Apollinaire sur les escaliers, puis un de mes copains vient me le lancer. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il ne comprenait pas. Il voulait être officier de l'armée, il voulait faire les sciences, c'était ça. Jusque-là, maintenant, les écoliers, les établissements scolaires orientent plutôt vers des choses qu'ils appellent, enfin, rentables.
Pour terminer ta présentation, donc tu écris aussi dans des journaux, oui. Des critiques littéraires, donc notamment L'Orient littéraire.
Et avant, L'Orient Express, oui. C'était deux expériences très, très originales et très, très importantes à Beyrouth francophone. Actuellement, nous avons un supplément littéraire qui est bien coté, une revue de livres, L'Orient littéraire, qui a été fondée par Sarah Staitier depuis longtemps, qui a été repris un peu par Alexandre Najjar maintenant. Et voilà. Et moi, j'écris en arabe, quoique j'ai parfois tendance à... Mais justement, j'écris mes ce qui est logique, revue de livres, réflexions en français, bien plus facilement que mes romans de fiction. La fiction... Je ne sais pas, avoir quelque chose avec la libido ou avec les origines, mais ça sort en arabe. Je n'arrive pas. Si j'écris en français, c'est de l'emprunter.
Ah oui.
Pour cette histoire-là, pour mes romans. Mais quand je fais un article, bon, je peux facilement m'exprimer.
Écrire en français. Ouais. Mais les romans, tu as tenté d'écrire des romans français?
J'ai essayé d'écrire des nouvelles en français. Non, ça ne va pas. J'ai pas senti, j'ai pas aimé, j'ai pas pu. Oui.
Tu peux préciser donc, pourquoi?
J'ai pas vécu en France, à vrai dire, sauf une ou deux années. Mon français est celui des livres, et là, je n'arrive pas à écrire comme ça. En arabe, c'est le parler qui m'entraîne dans la littérature. C'est l'arabe parlé, plutôt. Voilà, donc je prends l'arabe dans sa source de narration, de contique, si on veut. Le conte, comment on le raconte, comment on parle, et puis je l'élabore. En français, non. Je ne peux que partir de phrases carrées, et voilà, j'ai laissé tomber.
Sur ça, tu voulais...
Oui, ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on pense en français et on rêve en arabe ? C'est ce qu'on a l'impression d'entendre, là. Mais pour écrire des livres comme ces romans, dont, alors moi, je les lis en français, évidemment, mais c'est une écriture qui me paraît très élaborée dans sa poésie, même si c'est de la prose, dans sa facture. Et ça vient d'un arabe oral. Vous avez lu des livres en arabe
classique.
Classique. Et c'est pas un arabe classique, ça.
Si, c'est de l'arabe classique,
mais qui vient de l'oral.
Mais c'est comment dire.
On a du mal à comprendre nous tous ces arabes, ces langues arabes. Moi, je comprends pas bien. Donc, je pense que je suis peut-être pas la seule. J'aimerais bien qu'on...
Oui, moi j'ai l'occasion aussi, à travers mon travail d'atelier d'écriture pan-arabe, où viennent des gens, des jeunes de plusieurs pays arabes, de confronter ces parlers arabes, si on veut. Moi, avec le tronc commun arabe classique, sur lequel se greffent des voix marocaines, égyptiennes, soudanaises, libanaises et tout. Le parler. Bon, moi, je suis venu au roman par les histoires que racontait ma mère. Alors, ma mère les raconte de cette façon, les raconte avec son parler, avec son, oui, avec la couleur locale qu'il y a dans cette langue. C'est le point de départ, mais sur lequel j'essaie de rendre ça littéraire et bien assis quand même. C'est pas une langue. Bousculé, non. Mais c'est une langue où on ressent l'oral, quand même. Bon, et il y a aussi du français dans l'arabe que j'écris. Et comme des amis qui lisent mes manuscrits me disent « Mais ça, c'est du français, en fait. » Moi, je garde, et je suis content que ce soit du français, une séquence... qui rappelle un peu la structure de la phrase française dans ce cas précis. Pour cela, peut-être la traduction est plus facile, ou comme ça.
Donc, il y a 5 romans qui ont été traduits en français.
Oui.
Notamment les 4 derniers chez Actes Sud, hein, oui. On peut les rappeler. C'était d'abord... un qui a un titre anglais, en plus.
Oui.
Rose Fountain Motel. Alors, pourquoi c'est le titre anglais ?
Bah, c'est le traducteur qui a trouvé ça.
Ah bon, d'accord. Le titre original, c'est un titre arabe ou...
Oui, c'est littéralement Rose Fountain, en arabe. Ayn Warda. C'est un nom de lieu qui peut se comprendre par l'œil de la rose. Ayn, c'est l'œil.
Oui.
Warda, c'est la rose. Mais c'est en même temps l'œil... de la jeune fille qui s'appelle Rose Wardé. Tout ça dans une maison, dans une ancienne maison qui est là, sur les contreforts de Beyrouth, une dame a voulu ouvrir un motel qu'elle appelle. Et elle voulait l'appeler, puisqu'elle était d'origine anglaise, mariée à un Libanais. Elle veut l'appeler Rose Fountain Motel. Elle le dit en anglais. Ça, c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Une maison de notable transformée en motel par la jeune dame, la dame de l'héritier. Et voilà, le traducteur a trouvé bon. Je ne sais pas si ça aide ou ça...
Oui, mais en fait,
anglais, traduction
en
française.
Fait, c'est dans le texte, quoi.
Oui,
d'accord. Ensuite, est publié en français Pluie de juin, hein, en 2010. Et bon, rapidement, Saint-Georges regardait ailleurs en 2013. Donc c'est autour d'une icône de Saint-Georges que le personnage central va découvrir quand il va aller vivre à Beyrouth. On y reviendra après. Hein. Et puis le dernier paru en 2015, donc récent, c'est Le quartier américain, qui est un très très beau livre également, hein, sur lequel on va insister, hein, Cathy. Juste peut-être pour lancer une première question transversale à tous les livres, c'est que ce qui est frappant, c'est qu'il y a comment dire, je ne sais pas si c'est une thématique, mais il y a une réalité commune qui est abordée comme une étude de mœurs, c'est la dimension familiale qui est très présente dans tous ces livres.
Oui.
La famille est quelque chose de central dans ces différents romans que je viens de citer.
Et c'est au sens très large, parce que
au sens très large,
on a l'impression, oui, qu'il y a des personnages qui n'ont pas forcément des liens de sang, qui sont de la même famille, c'est-à-dire qu'il y a des maisonnées.
Oui, mais c'est la configuration sociale. Et on ne peut pas l'évacuer.
Mais ça, c'est nous, Français, on a besoin d'être attentifs parce qu'on ne comprend pas forcément des choses qui sont peut-être évidentes là pour vous, sur ces configurations de la famille dans la société.
C'est-à-dire les liens familiaux qui persistent, oui, dans la vie même adulte. Mm. Et l'appartenance. Ben oui, c'est ce qu'on appelle les identités. Les identités au Liban se déclinent sur plusieurs niveaux, mais le dernier qui serait l'individu citoyen serait un peu quand même une figure de l'esprit possible dans quelques quartiers de Beyrouth, et c'est tout. Pour le reste, c'est maintenant, surtout en période d'élection municipale, c'est ce qu'on appelle l'émergence des familles. Les représentants des familles, même les partis politiques disent on voudrait former des listes qui auraient l'aval des familles. Le mot famille revient de manière dramatique tous les jours, tout à tout. Les familles, c'est quoi les familles? Bon, moi j'en sais quelque chose, comme je viens de vous le dire. Je suis d'une famille où, voilà, il faut qu'elle soit représentée au Parlement, il faut qu'elle soit représentée à la municipalité, dans le système de distribution des biens. Mais même au niveau ménage, au niveau... il y a, je crois, des rapports qui sont un peu solides, qui résistent parfois, mais il y a quand même des inimités, des frères qui se disputent. Je connais un roman d'un Libanais brésilien, Milton Hatoum, où il parle de cette dispute de deux frères libanais. Je crois que le roman s'appelle Les deux frères, d'ailleurs. Oui. Et ben, c'est comme ça.
C'est pesant.
C'est difficile de dire à quelqu'un je m'appelle Pierre et s'arrêter. La question reste en suspens. Pierre quoi? Disons Hassan quoi? Il faut. Et la suite vient. D'où? Sur les barrages routiers, sur les barrages militaires, soit des milices pendant les guerres, soit même de l'armée ou des gendarmes ou des soldats. Le soldat peut facilement vous dire vous êtes d'où, même sans regarder votre carte d'identité, pour vous désigner, pour vous, comment dire, pour savoir qui vous êtes, si vous êtes chrétien, sunnite, chiite, voilà. Les noms parfois ne suffisent pas, alors il faut un complément d'informations.
Alors ça donne lieu à un passage de... C'est Saint-Georges, regarde ailleurs.
Ah oui.
Tu peux le résumer, parce que c'est exemplaire de cela.
Moi, j'ai envie de le lire, parce que
ça
donne une... c'est quand il...
Quand l'officier... Quand il y a eu dans le village...
Oui.
Une agression
ah,
d'un
oui,
officier...
Ah oui, au début, oui.
Oui, au début, oui, oui.
Ça, c'est joli, hein. C'est peut-être réel, mais... Alors, il y a eu une fois dans notre village une histoire de personnel de mœurs, un officier qui était une femme qui trompait son mari avec un officier d'armée. Et puis le mari vient tuer l'officier. Et puis l'armée vient prendre tous les hommes du village, les embarquer. L'homme ayant pris la fuite à travers les hauts bois de pins, l'armée reçut pour ordre d'arrêter tous les hommes adultes du village, de sorte que des soldats furent menés, montés de force dans les fourgons, en les houspillant brutalement, les citadins en villégiature qu'ils trouvaient sur leur chemin. Nous sommes dans notre village de la montagne. Et puis, un monsieur de chez nous, va tirer sur l'officier qui l'accusait d'être l'amant de sa femme. Alors l'armée embarque tout le monde, tous les mâles, y compris des estivants. Ils eurent beau protester qu'ils étaient étrangers et qu'ils ne passaient que l'été au village. Le capitaine, un druze de la région du Chouf, pensa qu'ils mentaient pour se tirer d'affaire. Alors qu'il ordonnait au chauffeur de son fourgon de démarrer, un villageois crut bon d'intervenir en expliquant aux militaires que s'il avait le droit d'envoyer en prison les gens du village, il devait relâcher les estivants parce qu'ils n'étaient pour rien dans cette histoire. Mais cela n'ébranla pas le capitaine, ce n'est que lorsqu'il vint à l'esprit d'un des captifs de lui donner son nom, Abdelmajid, ainsi que celui de son père Ahmad, tout comme celui du camarade assis à côté de lui, Mohamed Ali, que l'autre se rendit compte de sa méprise. Il demanda à voir toutes les cartes d'identité, et les ayant vérifiées, il relâcha les musulmans au milieu de la route. Ils furent obligés d'attendre que les automobilistes les reprennent. Voilà, c'est comme ça qu'on se repère, qu'on se culpabilise. Ça arrive. Ouais.
On lit un petit passage, peut-être.
Lisez le passage.
À voilà. Voilà. Le passage, oui. Un peu plus sérieux, celui-là.
Voilà.
Donc, on va vous lire une
donc,
lecture.
Donc, d'abord en arabe, c'est
non,
ça
on va vous
d'abord
lire.
En français.
Non.
Ensemble.
En même temps.
Ah, en même temps, c'est vrai, en même temps.
Voilà, les une ou deux premières pages de ce très, très beau roman que je vous recommande, qui s'appelle « Le quartier américain ». Ne trouvant pas de quoi se chausser pour se protéger du froid du carrelage, Abdelrahman Bakri est sorti pieds nus de sa chambre et s'est hâté vers les toilettes d'un pas brinque-ballant. Avec l'âge, ses besoins naturels matinaux se font de plus en plus impérieux. Mais subitement, cédant à la manie qui s'est emparée de lui quand il a acheté ce large téléviseur couleur, manie dont sa femme pense que, sans doute, seule la mort parviendra à lui ôter, il s'est arrêté à mi-chemin entre la porte de la chambre et les toilettes, installé sous l'escalier menant à l'étage, et s'est mis à chercher la télécommande en se tournant dans tous les sens, tout en serrant de sa main gauche à l'entrecuisse son pantalon de pyjama à rayures, signe que son envie devenait vraiment très pressante. Abdelrahman, surnommé le pendu, par allusion à quelque anecdote familiale oubliée, vit ce quartier, dit américain, en raison d'une école anglicane désaffectée, dont pendant des années, un bureau des redoutés renseignements de l'armée de l'air a occupé les bâtiments à moitié croulants. Le quartier surplombe le fleuve traversant la ville. Pour se rendre chez eux, les habitants n'ont d'autre choix que de gravir les multiples escaliers qui tracent sur la butte des sillons semblables à ces rigoles creusées par la fonte des neiges sur les pentes montagneuses. Ils s'entraident quand il faut transporter des meubles ou des malades, et ceux qui peuvent se le permettre louent les services d'un porteur pour remonter du marché aux légumes installés au pied de la colline. Le pendu habite avec sa femme, plus âgée que lui, et leurs 5 enfants. Une maison de grès qu'une famille marchande du souk au grain, de conditions plutôt aisées, a abandonnée il y a un demi-siècle. Leurs enfants sont partis s'installer à l'ouest de la ville, dans les quartiers huppés. On voit encore la trace d'une rose gravée dans un carré de marbre, au-dessus de la grande porte d'entrée en bois de résineux, et quelques vestiges d'ornementation le long de la corniche du plafond, détails témoignant du triste état de la bâtisse, mais aussi de la vie que le quartier américain a pu connaître autrefois, avant d'être envahi par les pauvres des montagnes voisines, où la culture des abricotiers ni d'aucun autre arbre fruitier ne suffit plus à nourrir les familles. Faute de moyens, le pendu a dû se contenter des deux chambres au rez-de-chaussée et du hall d'entrée, qui sert de pièce de vie dans la journée. Au milieu du hall, un escalier mène aux deux pièces de l'étage, escalier par où le colocataire, Bilal Mohsen, entend monter par intermittence les hurlements que l'autre lance à la figure de sa femme et de ses enfants. On voulait vous donner à entendre un petit peu l'arabe en fond. Je ne sais pas si ça... Une question par rapport à la langue, pour revenir à la langue. C'est toujours le même traducteur pour les 5 livres?
Non, pour les 2 derniers seulement.
Et alors, est-ce que le traducteur se débrouille tout seul ou est-ce qu'il vous contacte dans la mesure où le français, c'est quand même une langue que vous connaissez bien?
Je peux raconter l'histoire d'une traduction?
Oui, volontiers.
L'histoire d'une traduction, celle de plus de juin. C'est un roman que j'ai écrit sur un massacre qui a eu lieu entre nos familles en l'année 1957. Donc moi j'avais 8 ans et j'ai vu ce que pouvait voir un enfant. Et puis j'ai raconté tout ça et j'ai écrit ce roman dont le titre m'a été inspiré par mon frère, parce que ce massacre dans une église a eu lieu la moitié de juin, et comme il ne pleut jamais en juin, mais il a plu ce jour-là, comme si c'était par malédiction. On appelait ça la pluie de juin. Le livre est tombé entre les mains d'une prof d'arabe à Paris, qui est responsable des langues étrangères à l'école normale supérieure, et qui brusquement découvre dans ce livre une histoire qui lui appartient à elle aussi, parce qu'elle est de la région, et que le premier souvenir de sa vie, c'était son grand-père de curé qui rentrait de cette église, de cet office, et qui avait reçu une balle dans la jambe. Et on lui a soulevé la soutane noire et il avait plein de sang. C'était le premier souvenir de sa vie, qu'elle dit. C'était le coup de feu dans le corps de mon grand-père. Alors elle a décidé de traduire ce livre et elle l'a fait avec beaucoup de plaisir et d'amour et d'intérêt. Voilà, ça c'est pour Pluie de juin. Pour le premier, Rose Fountain Motel, c'est un traducteur français, Emmanuel Varlet, qui est maintenant responsable de collection de l'arabe chez Seuil. Et le 2 dernier, une Française qui habite à Alexandrie, que j'aime bien et qui fait son travail avec beaucoup de conscience, qui s'appelle Stéphanie Dujols. Et elle a traduit plein de romans arabes aussi.
Quand je repense aux familles, justement, et cette personne-là qui trouve dans un de vos livres une histoire qui lui est propre, qu'est-ce que dit la famille de tous ces livres? Qu'est-ce que dit la famille? Parce que là, ils sont là.
Si vous voulez parler du bonhomme lambda, comme ça, organique, eh ben il est content d'un certain succès littéraire de l'un des membres de sa famille. Ça, sans trop regarder sur le contenu, quand même. Mais quand j'ai remué un peu avec mon roman des histoires passées,
Allez-y.
Oui. Peut-être encore une question, on peut... Ça y est, ça marche là. Oui, merci. Dans le roman Le quartier américain, il m'a semblé, c'est toujours périlleux de définir un livre trop vite, mais que c'était un beau roman sur l'attente.
Sur ?
L'attente, attendre.
C'est...
Non.
C'était un roman difficile pour moi C'était difficile pour moi de ficeler cette histoire. L'histoire actuelle que nous vivons tous les jours, d'un jeune issu d'un milieu de misère, qui se fait embrigader par des barbus de malheur et qui escamote entièrement tous ceux dont il souffre, soit son histoire de famille, son manque de travail, sa misère, l'état de santé de ses parents, tout ce dont il souffre, est entièrement escamoté par ses appels au djihad. Parce que, et ça c'est vécu, tout le monde peut le constater, un jeune homme de Tripoli, au Liban, sur la mer Méditerranée, est envoyé se faire tuer, exploser, dans un village kurde chiite sur les frontières de l'Iran. Toute cette aliénation a lieu tous les jours. Tous les jours. J'ai essayé de décrire un peu ça. Mais je ne pouvais pas savoir, parce que j'écris sur l'actualité, et ça c'est le problème d'écrire un roman sur des choses en cours. On ne savait pas. J'ai laissé une porte ouverte à l'espoir, et c'est tout. Je ne peux pas. Je sais pas.
À l'espoir, et je dirais même à la vie, en fait.
Oui,
ce qui est frappant dans ce livre, qu'on peut peut-être résumer, c'est la vie d'un quartier très pauvre, de banlieue, comme on dirait ici, de Tripoli, où les gens sont pauvres, sont dans la survie, il y a beaucoup de chômage, les familles sont un peu décomposées, ou...
Oui.
Elles existent, mais en même temps, elles sont un peu visées. Donc, il y a ce tableau qui est pas gay, qui favorise, qui est un terreau pour une radicalisation, comme on dit, de jeunes qui partent au djihad. Et en même temps, ce livre, il y a beaucoup de, comme tu dirais, Cathy, de douceur, de générosité et de vie. Et alors, je ne sais pas, on ne peut peut-être pas raconter ce qui est vers la fin, quand même.
Non, mais c'est beau, la fin.
Oui. Mais c'est très beau, pourtant.
La fin, c'est très beau. Oui.
La fin est très belle.
Ah
parce
oui,
que...
elle est très, très belle. Non.
Voilà, donc tout le monde le lit, hein. Bon.
Oui, mais même la description de la misère n'est pas... C'est ça la magie de la littérature, c'est que l'écrivain prend soin du lecteur, une fois encore. Il dit ce qu'il y a à dire, mais dans une poésie, et le lecteur n'est pas malmené par les choses difficiles. Il rentre dans un récit.
Oui, c'est ça. Comment dire la misère, comment dire la crudité des choses, et en même temps, que ce soit... La clé de tout cela, c'est parvenir. Moi, bon, chrétien de culture et pacifiste de vocation, malgré tout, comment aimer ces gens-là dont on parle? Comment aimer ce fils d'Ismaïl qui va partir pour l'Irak. Je suis arrivé à l'aimer, quand même, quitte à ce qu'il me tende la main et à ce qu'il renonce, à la fin, à son projet. C'est tout. Sinon, je n'aurais pas parlé de lui. Enfin, j'aurais changé de personnage. C'est cette tendresse, je crois, qui fait que même la misère devient un peu lisible.
Mais alors, pour écrire dans un roman, développer un personnage, lui donner corps et âme, c'est pas possible de le haïr d'un bout à l'autre en tant qu'auteur.
Oui, justement. Ouais. Non, tu ne crois pas. ne peut pas l'haïr, non, on ne peut pas.
Il faut pouvoir l'aimer.
À un moment donné, oui. Il faut beaucoup de sympathie, des fois. Mais on peut lui assigner un rôle ravageur, parfois. Mais quand même, il faut le comprendre, il faut le rentrer dedans. Vous en savez quelque chose, bien sûr.
Oui, et puis ça permet au lecteur de le faire aussi.
Oui, ça suit.
Et c'est tout l'intérêt de la littérature, c'est que tout d'un coup, le lecteur se trouve dans une position, il ne peut pas haïr. Tout d'un coup, je ne vais pas dire qu'il comprend, mais il ressent des choses, et là, c'est là qu'il apprend. Et c'est...
Mais c'est tout l'artifice de l'écriture. C'est l'auteur lui-même qui imprime cette tendance affective.
C'est une question très chrétienne, ça, savoir comment aimer son ennemi.
C'est pas un ennemi, c'est l'ennemi de lui-même.
C'est l'ennemi de lui-même. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres livres?
Mais là, Tripoli, du coup, s'est calmé. Comme si ce roman avait été pour quelque chose. Mais ça a été lu par des jeunes proprement visés par le roman. Que je mets en scène une association qui réunit des gens du quartier avec une ancienne étudiante à moi qui a amené le livre et qui a distribué des copies à une centaine de jeunes de quartier chaud et pauvre de Tripoli. Puis on a discuté, c'était un moment surréaliste. Il me disait: comment vous savez que le frère du kamikaze se réjouit? Parce que moi, dans mon bouquin, à un moment donné, Al Jazeera, la télévision, montre le monsieur là, en récitant son testament. Il ne mourra pas, mais la nouvelle arrive dans le quartier comme quoi...
Il est mort.
Il est mort. Or, on fait des calicots, le martyr.
Il est célébré.
Le frère est très content. Il est le frère du martyr. Ils m'ont dit, nous avons un joueur de foot dans le quartier qui a été se faire tuer, et son frère était très content. Ah, il était heureux d'avoir un frère. Et moi, je leur ai dit, et la mère? Ils ont dit non, la mère, non. Elle était quand même descendue. Parce que des fois, certaines télés, ça, les Palestiniens l'ont fait, le Hezbollah le fait, comme quoi la mère du martyr est censée être fière. Et le dit. Mais ça, c'est... Je sais pas. Je crois que c'est inhumain.
Voilà.
Une autre question à la lecture comme ça des livres, et notamment dans Saint-Georges, vous faites dire à l'instructeur, alors je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, que musulmans ou chrétiens, on est tous des Libanais. Authentique.
Oui, il y a comme ça une langue de bois, oui.
c'est pas à propos de l'auteur.
Mais pas du tout, c'est le propos le plus...
Voilà. Donc, Libanais.
Au moment même où on s'entretuait, il le disait.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Comme ça,
Mais alors, c'est quoi être Libanais pour l'auteur?
C'est pas, mais je l'ai déjà dit à propos de Mme Barrault, qu'elle a parlé du Liban d'une manière quand même non stéréotypée. Le Liban, la mixité, le pape lui-même dit le Liban est un message. Le Liban pluriel, le Liban miroir du monde. Je ne suis pas sûr de tout cela, c'est facile. Et puis, il y a quelque chose au Liban et cet équilibre tend un peu à décliner. Les chrétiens et les musulmans peuvent se regarder en face dans un seul pays et avoir les mêmes droits. Et dialoguer s'ils veulent, ou s'entretuer s'ils veulent. C'est ça un peu le Liban, où il y a une possibilité. C'est-à-dire que moi, je suis de Zgharta, une ville chrétienne. Je disons, à Tripoli, je suis en pleine possession de mes privilèges de citoyen libanais. Et celui qui est en face de moi aussi. C'est-à-dire, on n'est pas. Ce n'est pas le cas de d'autres minorités ailleurs dans le monde arabe ou en Orient. Ça permet un face-à-face, une sorte de possibilité de dialogue, de vivre ensemble, là, on n'a pas aimé. Oui. Pourtant, je viens de signer un appel, l'appel de la Méditerranée pour le vivre ensemble. Vous me donnez des idées. Je vais me...
c'est l'appellation exacte, quoi, c'est ça ?
L'appel de la Méditerranée pour le vivre ensemble, bon, au vu de ce qui se passe. Le Liban, voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'un Libanais. Un Libanais, ça a été formé. Et c'est pas mauvais qu'un pays se forme. Tous les arabisants, les partisans de l'arabité, comme on les appelait, les nassériens, les bassistes, pro-syriens ou pro-irakiens, certains, comment on appelle le parti, imaginez un nom de parti, le Parti National Syrien, qui est au Liban, s'appelle le Parti National Syrien. Tout ça considère que le Liban est une fabrication de la France et de l'Angleterre, dans un accord célèbre appelé le Sykes-Picot. Et ils en veulent à ce pays d'avoir été ainsi, disons, rafistolé, à un moment donné, il y a déjà 100 ans, et que ça cloche des fois. Et que le Liban doit faire partie d'un univers plus large, d'un horizon plus large, d'une arabité, ou d'une syrianité, ou d'une, je sais pas quoi. Et voilà. Tout ce qui se passe maintenant dans le monde arabe donne raison à ce petit pays de rester tel qu'il est, quand même. Et d'essayer de se consolider. La tâche est ardue avec des responsables politiques de petite taille en général qui se succèdent au Liban. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas. On va parler politique.
Oui, mais il y a la politique, mais il y a la vie quotidienne. Oui. Et dans la vie quotidienne, il y a bien vivre ensemble. Tous ces gens de confessions différentes travaillent ensemble aussi.
Oui.
Et donc, c'est peut-être ça, le vivre ensemble, c'est aussi du quotidien. Et c'est ce qui peut cimenter une idéologie plus...
Oui, mais la chose publique est vraiment capable de séparer l'inséparable, si on veut dire. C'est-à-dire quand vous avez des quotas dans à tous les niveaux, des quotas de fonctionnaires, des quotas d'élus, de l'argent donné, tout est ainsi façonné, de manière à ce que nos enfants, une nouvelle génération vienne avec des idéaux comme ça, et puis ils sont systématiquement déçus et désolés, et ils rentrent dans les rangs. De cette formule. Mais Beyrouth, quand même, vous en parlez de la culture. À Beyrouth, il y a une renaissance continue des arts, des lettres. Il y a plein d'écrivains, il y a des gens qui font du théâtre, du cinéma, comme on verra ce soir, des peintres, des musiciens. Profitant encore toujours d'un brassage. Actuellement, les déplacés syriens, les exilés irakiens qui viennent contribuent aussi. Ils ne sont pas tous des... Tous ceux qui ont quitté la Syrie ne sont pas tous des gens qui vont habiter dans les tentes, quand même. Pas des pauvres pauvres. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui viennent s'installer et qui contribuent aussi à un bon mouvement culturel que je crois existe au Liban actuel.
Mais apparemment, donc, il y a quand même un contraste très marqué entre Beyrouth d'un côté et le reste du Liban, y compris Beyrouth-Tripoli, par exemple. Oui, c'est deux univers qui n'ont aucun rapport.
Oui,
presque.
Oui. Tripoli, c'est... Beyrouth cache la réalité libanaise, quelque part. La grande réalité libanaise sociologique. Beyrouth est une ville toujours ouverte, toujours possible, qui peut être reconstituée culturellement. Et tout. Actuellement, il y a un beau, une belle campagne municipale menée d'un côté par les politiques réunies et d'autre côté par ce que nous voyons ici, des sortes de groupements d'indépendants qui forment une liste et vont aux élections. Il y a une vitalité qui existe à Beyrouth, qui jusque-là ne s'est pas encore éteinte et ne s'éteindra peut-être jamais. Mais le pays profond, tout petit qu'il est, cache une sociologie de famille, de clan, de communauté religieuse, de solidarité, de petite solidarité, de village. Nous, quand on était on venait du Liban Nord, avec nos familles écrites sur le front, et puis brusquement, on arrive dans un... On comprend que dans un patelin comme le Kisrouan, qu'on croyait être une forme, un espace avancé du Liban, et bien tout se passe aussi, mais avec moins de violence, mais sur des bases familiales de distribution de pouvoir municipal, électoral et tout. C'était ça. Feu Samir Assir, notre ami et martyr, a écrit un très beau livre sur Beyrouth qui explique ce phénomène dont je vous parle. L'histoire de Beyrouth et qui est l'histoire, le Liban, c'est une ville au Liban qui est différente, je crois.
Et qu'est-ce qui explique au fond cette, vous l'avez un peu dit, cette vitalité de Beyrouth culturelle, cette énergie, c'est quoi? C'est que ça reste une ville ouverte au monde, c'est ça?
Oui, et c'est que les composés
de... Il y a une circulation permanente.
Les composés de plusieurs... C'est-à-dire, pour vivre, les Tripolitains peuvent vivre sans vivre ensemble. C'est-à-dire, ils sont majoritairement sunnites, ils vivent. Peut-être ils végètent, je ne sais pas. Mais à Beyrouth, il faut qu'il y ait un espace commun. Parce qu'il y a d'un côté le Beyrouth chrétien, de côté le Beyrouth sunnite, le Beyrouth chiite, il y a la communauté druze qui est aussi, et il y a plein d'étrangers, de gens du voisinage, des universités, des journaux, des clubs, des musées. Tout ça parvient à créer un espace de développement culturel possible. Et ça, c'est Beyrouth. Il est fait comme ça. Si Beyrouth était une ville mono-communautaire, eh ben, il n'y aurait plus rien à dire. Ça devient...
Et d'un autre côté, on n'en a pas parlé, c'est évoqué beaucoup dans un certain nombre de romans aussi, pas tellement les vôtres un petit peu, mais il y a une diaspora incroyable des Libanais. Il y a beaucoup plus de Libanais qui vivent à l'étranger que de Libanais qui vivent...
Rabbi Azeb a écrit des livres sur lui. L'immigration. Qu'on appelle l'immigration, oui. La diaspora.
Et de l'intérieur, ça se vit comme un élément de vitalité ou comme une perte?
Bon, il y a tout un discours officiel sur la diaspora libanaise qui est vite tombé à l'eau quand même. Comme quoi, c'est une quête de, je ne sais pas quoi, d'horizon nouveau, alors que c'était des départs massifs, bien datés, concomitants avec des conflits armés, avec la Première Guerre mondiale, en 1860, la guerre civile, Première Guerre civile, Deuxième Guerre civile. Le Liban a connu des flux d'immigration à cause des guerres et du besoin économique. Et puis après, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire une légende, on peut en faire un... Oui, c'est ça la littérature aussi, peut-être. Oui.
La littérature, c'est de construire des mythes, des légendes, ou c'est au contraire de tenter de saisir ce qui échappe, ce qui est caché par les discours officiels, c'est-à-dire quelque chose du réel.
Moi, en ce qui me concerne, je crois que j'écris pour essayer d'élever des personnes de la médiocrité où ils sont, où nous sommes tous. La vie est médiocre, la littérature crée une sorte de je sais pas, un aura. Et ça, je l'ai touché du doigt, dans ce sens. J'ai fait d'abord un recueil de nouvelles. J'ai écrit sur des gens que tout le monde connaît dans mon village. Des gens, la petite marchande de la brouette qui était à côté de l'école, l'institutrice, je ne sais pas qui, le monsieur. Puis j'en ai fait des personnages dans des nouvelles plutôt bien écrites. Les gens viennent me dire, mais pourquoi vous avez parlé de ça? Quoi bon, mais bon, il refusait l'idée qu'on puisse parler de gens de ce calibre, de ce niveau. Je ne sais pas comment il regardait le monde. Mais moi, par exemple, j'ai écrit un roman sur Tripoli. Bon, je vais vous dire, Tripoli, dans la réalité du concours quotidien, de la côte, est une ville quand même... sans grande envergure pour moi. Sans grande envergure. C'est une ville, c'est une petite ville comme ça, avec des problèmes locaux. Beyrouth est plus passible de mythologie. Là, j'ai essayé de relever un peu mes propres sentiments vis-à-vis de cette ville, où il y a vraiment quelque chose de médiocre. Des gens réputés, bon. Une culture de l'économie. Pas de vie de nuit. Rien. Il n'y a plus de cinéma. Tout ça...
Il y a combien d'habitants aujourd'hui?
400 000.
400 000.
Ou 500 000. Mais là, dans le roman, j'ai essayé de me laisser aller à construire quelque chose qui dépasserait ça. Je ne suis pas chercheur... On peut être. Enfin, la littérature peut ainsi relever, je crois. Du moins, rendre la vie plus possible aussi. Et en même temps, notre littérature libanaise est le meilleur. Nos romans libanais, tous ceux et celles qui sont présents ici, les Libanaises surtout, c'est la véritable histoire du Liban. C'est la véritable histoire du Liban. On n'est jamais arrivé à faire un livre d'histoire sur l'histoire contemporaine, parce qu'il y a tellement de différents. On fait des comités qui n'arrivent pas à rédiger un livre. Même s'ils arrivent à rédiger, ils rédigeront quelque chose en langue de bois. Mais les romans sont la véritable histoire du Liban actuel. Et tout y est dit, tout y est parcouru, tout y est exploré. Dans tous les sens. L'histoire de la femme, l'histoire des immigrés, l'histoire des miliciens, le sniper, je ne sais pas qui, tout.
Mais ces romans contemporains, ils sont lus à l'école ou à l'université?
De plus en plus d'instituteurs, d'institutrices, de professeurs d'université essaient d'introduire un peu cette littérature contemporaine, mais il en faut encore plus. C'est surtout des initiatives personnelles. Dans le programme, c'est encore ignoré toute cette littérature qui date déjà depuis 50 ans. Non.
À l'école,
le programme, c'est Gibran.
Ah oui, oui.
Et quelques noms aussi, bien sûr.
Il n'y a pas de cours de littérature contemporaine.
Dans les universités, oui.
Oui, mais oui. Pas avant.
Mais je crois que, par exemple, dans une institution très grande comme l'Université libanaise, ces cours sont rares, ne sont pas évidents. Il y a une culture de la littérature arabe au Liban qui assume tout l'héritage arabe. Alors là, la place de la littérature contemporaine libanaise est encore
plus minimisé. Mais bon, on est souvent invité dans des écoles, pour parler devant des élèves. Et ça va. Il y a quelque chose qui finira par venir quand même.
Et les éditeurs ?
Et
les éditeurs au Liban ?
Bon, les éditeurs, oui. C'est une ville, Beyrouth, où les meilleurs livres s'impriment. Les éditeurs libanais sont très recherchés par les écrivains arabes. Bon, il y a le Caire et Beyrouth. Après, vous voyez, les autres capitales ne sont même plus fréquentables. Mais c'est là, oui.
Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a de plus en plus de livres de littérature arabe.
Le roman connaît une floraison inédite. Moi, je suis un peu placé pour le savoir. Je dirige un atelier d'écriture de romans, ainsi intitulé, pan-arabe, c'est-à-dire les candidats viennent de tous les pays arabes. Nous réunissons ces candidats, non pas ces candidats, les lauréats. Nous les réunissons 3 fois par an, chaque fois 10 jours. Un brainstorming autour de leur écriture et de l'écriture de leurs amis, tout ça. Et nous constatons l'évolution de leur travail et du roman, et en fin de compte, l'association AFOC, qui fait le projet, se charge de publier ces romans. Et bien, cette année, on a eu 250 candidats pour 8 places. Ils se publient chaque année dans le monde arabe 1 millier de romans. Il y a quelques décennies, c'était des dizaines par année, même moins. C'était moins que 100. Actuellement, c'est 1000 et plus. Le prix, bon, il y a aussi une logique des prix. Il y a un prix Booker anglophone qui s'était arabisé et qui, bon, couronne une shortlist et puis un lauréat. Eux-mêmes avancé par les éditeurs. Chaque maison d'édition peut avancer 3 noms. Donc ça fait quelque chose de limité dans les 150 titres que le comité choisit. Et c'est donné $10,000 et puis le premier recevra $60,000. Alors le Qatar, dans son déferlement à côté du football, il dit, bon, moi, je vais faire un prix où il y aura 60 000, et pour les manuscrits, 40 000. Je ne sais pas qui va les lire, mais ils reçoivent 1050 candidats pour l'année passée. 600 livres imprimés et 450 manuscrits. Voilà, chacun veut écrire son roman dans le monde arabe. J'ai l'impression que c'est une bonne chose.
Ben, on retrouve ça aussi en France, oui. D'une certaine manière. Oui, oui. Je crois qu'il n'y a pas de grande différence de ce point de vue-là. Il n'y a pas de grande différence de ce point de vue-là.
Dans le monde actuel, oui. Mais c'était la poésie, et puis maintenant c'est le roman, mais carrément. Carrément, la poésie, c'était la langue arabe, c'était la poésie. Et actuellement, ça y est, il n'y a que les poètes qui se recyclent dans le roman. Plein de gens qui écrivaient les poésies et qui veulent maintenant écrire des romans. Eh bien, c'est un genre, c'est le genre monde, là. Oui.
Cela dit, est-ce que c'est seulement une raison, je dirais, de marché ?
Non.
Il y a peut-être une raison plus profonde, oui, quand même.
Les émergences d'individualité, oui. Même si on raconte l'histoire de sa communauté, mais on est nous-mêmes là, le narrateur. Des femmes qui écrivent, oh lolo. Non, ils écrivent. J'ai rien contre. Bah.
Mais alors, Cathy a fait allusion tout à l'heure dans ses propos. On a le sentiment quand même que les jeunes générations de romanciers, qui sont d'ailleurs plus facilement féminines, écrivent des textes qui se sont quand même pas mal arrachés au poids des traditions du clan.
C'est ce que je constate aussi dans ces candidatures. Les projets de romans, il faut le savoir, pour notre génération aussi, qui a exprimé ce cadre de mutation collective, sociale, étatique, culturelle. Eh bien, les projets de romans sont de plus en plus individuels, au sens d'une expérience personnelle. Moi et les films porno. La jeune femme, oui. Enfin, des choses comme ça, des itinéraires marqués individuellement. Alors qu'un romancier comme moi, il paraîtra bientôt comme un vieux communautaire. Même si, bon. Donc c'est comme ça. C'est la vie.
Même si dans tes romans, c'est pas ça l'essence du roman, là, c'est vraiment la confrontation entre une liberté individuelle ou un destin individuel qui veut s'orienter et une destinée collective.
Je crois que c'est tous les romans, c'est comme ça.
Oui, oui. C'est peut-être ça au fond ce qu'est le roman, non ?
Oui. Dès qu'il y a l'émergence de l'individu avec un destin, il y a il y a devant lui des handicaps, des forces de retour.
C'est bon. Et alors, est-ce que en français et en France, on a le bonheur de lire quatre romans, mais est-ce qu'il y en a d'autres en arabe qui ne sont pas encore traduits? Est-ce qu'on peut espérer avoir le bonheur prochain de lire d'autres romans de Jacques Bourdouy?
J'ai encore deux romans qui n'ont pas été traduits en français, les deux premiers.
Les deux premiers, donc, d'accord.
Un seul n'a pas été traduit.
Laquelle,
c'est Dayana? Oui, justement. Et je suis en train de finir un roman, maintenant. Mais là, tout le problème, c'est de ne pas se répéter, d'essayer de d'étendre un peu le champ de la fiction, de la narration, le cadre spatio-temporel, essayer d'écrire dans la voix d'autres personnages, des personnages autres que ceux que j'ai écrits. Et il y a une double tendance à laquelle est confronté un écrivain. D'abord, ne pas se répéter, ce qui serait quand même, voilà, il est vite repérable. Et en même temps, le plaisir ou la nécessité d'avoir un style reconnaissable de livre en livre. Voilà, et entre ces deux tendances, on essaie de naviguer. Ne pas se répéter, mais en même temps, quand même, on ne peut que avoir son style. La langue, entre nous et la langue, c'est plus fort que nous.
Avec Jacques Bourdouy, cet équilibre est réussi, sincèrement.
J'essaie.
Et alors, vu qu'il est presque fini, le roman qu'on aura le plaisir de découvrir, j'espère, dans un proche avenir, en français, il s'agit de quoi ?
Oh. Ça aussi, c'est difficile. Je ne saurais pas vous raconter. Non, je veux bien, mais d'abord, je vais. Ça doit s'appeler en principe l'homme au manuscrit. Voilà, l'homme au manuscrit. Un jeune homme qui tient comme ça sur comme une main blessée, un manuscrit, un cahier rouge dans lequel il a écrit quelque chose, et qu'il fait le tour des éditeurs de Beyrouth. Ça commence comme ça.
Ah, super.
On verra.
Peut-être y a-t-il des réactions de trois questions. On a 5 minutes, pas plus, et puis après on fera une pause en remerciant vivement Jabour Doué. Mais quelqu'un. Oui? Est-ce que Sgarta, avant la Première Guerre mondiale,
était toujours un village chrétien ou c'est après la Première Guerre mondiale, avec l'intervention des Britanniques, qu'il y a eu
le... Faut pas le dire devant des Sgortiotes, hein, parce qu'ils se considèrent comme chrétiens depuis le 7e siècle. Vous connaissez Sgarta et Ehden? Ah non, c'est ça. Non, si on parle, non, parce que l'emplacement de Sgarta est plus récent, tandis que les Maronites étaient plus confinés dans la montagne. Et grâce à certaines circonstances politiques, sociales, ils ont élargi leur domaine d'implantation. Ils sont descendus dans la plaine vers ce qu'on appelle Sgarta. Mais eux-mêmes, les Sgortiotes, non, ils ont toujours vécu comme ça. Ce sont des Maronites. C'est le seul village, la seule grande ville. Bon, il y en a peut-être d'autres. Mais on raconte une histoire. Je vais vous la dire pour vous répondre. Que quelqu'un vienne à demander s'il y a une mosquée à Sgarta. Alors quelqu'un lui dit, mais il n'y a même pas une église orthodoxe. Comment voulez-vous qu'il y ait une mosquée? Posez demain la question à Iman.
Voilà.
Mais je crois qu'il y a de tout au Liban. Il y a de tout.
Je me posais la même question.
Il y a de tout. Il y a des femmes très libérées, des femmes. Bon. Et puis il y a des. Il y a toujours la polygamie quelque part, avec des fois sur des programmes de télé, à sensation comme ça. Deux ou trois femmes d'un même monsieur qui s'amènent et qui se rivalisent de d'éloges pour lui devant tout le monde. Moi je l'aime, on se le partage selon un système comme ça. Il y a tout. Le Liban est vraiment mosaïque. Et je ne peux pas dire qu'il y a une femme libanaise. Il n'y a pas de femme libanaise. Il y a une infinité de possibles Libanais. C'est une société. Très diverse. Même si elle est en général un peu familiale, un peu communautaire, comme on a dit au début, mais quand même, les spécimens féminins sont innombrables. Mais... Il fallait le chercher. Hein.
Mais les personnages dans vos livres, les femmes et les personnages femmes sont très beaux personnages.
Oui, oui. Mais dans ce livre, il y a une femme. Attendez. Dans le Pluie de juin, il y a une femme qui est presque aveugle et qui pleure, je ne sais pas quoi. Et dans ce livre, il y a toutes sortes de femmes.
Oui.
Il y a la peintre abstraite, la peinture abstraite. Il y a la femme au village qui couvre son... Il y a tout.
Oui, mais ces personnages féminins sont très très beaux aussi. Hein. Oui.
Et aussi là...
Une tissère, elle est magnifique.
Je raconte les histoires de femmes parce que... On est entouré de femmes et de toutes sortes, franchement.
Et peut-être que leurs histoires sont plus intéressantes.
Oui, peut-être.
Enfin, leurs histoires.
Je ne sais pas. Yalla.
Allez, une dernière question, puis après on va en rester là. Mais...
C'est un terme très peu utilisé en France, que dire aliénation à propos des jeunes femmes et filles.
Vous utilisez le terme aliénation qui est très peu utilisé en France à propos des jeunes qui font le djihad.
Vous pouvez développer un petit peu.
Oui, moi j'ai, j'ai, j'ai écrit dans ce roman le parcours d'un djihadiste que je diviserai en deux parties. Sa vie réelle dans une société, la misère, le chômage et tout, et ce qu'il voit, c'est révoltant, vraiment c'est révoltant, de vivre dans une telle misère. Et puis, ce qu'on lui fait faire, ou ce qu'il accepte de faire, en réaction, en prolongement de cela, c'est ce que j'appelle l'aliénation, le détournement un détournement.
C'est très intéressant.
Ou une mauvaise, une fausse conscience de ce qu'il est.
Ça sort vraiment de...
On l'a hérité du marxisme, puis...
Oui, oui. Et ça sort du faux débat, du débat stérile en France, par exemple, où il y a ceux qui sont, alors, dans la justification sociologisante de tous les actes, disons, terroristes, et ceux qui condamnent sans vouloir comprendre. Et là, il y a une perspective de dépassement qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est dialectique, quoi. C'est...
Bien sûr, il faut prendre la chose en son milieu. Tous les profils qu'on a vus à la télé, qui étaient là impliqués dans les attentats de Paris ou de Bruxelles, ont une jeunesse, une adolescence de ce genre-là. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir ? On se demande. Mais ils se vengent sur qui ? Sur lui-même, sur des gens attablés en terrasse, sur des usagers du métro. C'est ça ce qu'appelle l'aliénation. Où intervenir, comment intervenir avec... Voilà, là, ça c'est un vaste programme.
Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Jabour. Oui. Et merci beaucoup, Cathy aussi. Cathy Barreau. Merci à toi.